Nous nous rappelons, Danforth et moi, avoir débouché dans le grand hémisphère sculpté et retrouvé le fil de notre piste à travers les salles et les galeries cyclopéennes de la cité morte. Encore n'était-ce que des bribes de rêves sans souvenir d'actes volontaires, de détails, d'épuisement physique. C'était comme si nous flottions dans un monde nébuleux ou une étendue sans durée, ni lien logique, ni orientation. Le demi-jour terne de l'immense espace circulaire nous dégrisa quelque peu. Mais nous ne retournâmes pas près des traîneaux cachés revoir le pauvre Guedney et le chien. Ils avaient là un mausolée étrange, titanesque. Et j'espère que la fin de cette planète les trouvera toujours en paix. C'est en escaladant la colossale rampe en spirale que nous ressentîmes pour la première fois la terrible fatigue et l'essoufflement qui nous restait de notre course dans l'air raréfié du plateau. Mais même la crainte de nous effondrer ne put nous arrêter avant d'avoir atteint le monde extérieur normal du soleil et du ciel. Une coïncidence assez opportune marqua notre départ de ces époques ensevelies. Car tandis que nous poursuivions en tournant notre marche haletante jusqu'au faîte du cylindre de maçonnerie primitive de 60 pieds, nous apercevions près de nous le défilé ininterrompu des sculptures héroïques, dans la technique ancienne et inaltérée de la race morte. Un adieu des anciens, gravé 50 millions d'années plus tôt. Grimpant enfin hors du sommet, nous nous retrouvâmes sur un grand tas de blocs écroulés, avec les murs courbes de la construction plus haute qui se dressait à l'ouest, et les pics menaçants des grandes montagnes portant les édifices plus dégradés au loin vers l'est. L'oblique soleil antarctique de minuit perçait en rougeoyant depuis l'horizon austral, à travers les fissures des ruines déchiquetées,